Bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré! Ça a-tu marché?
Je sais pas.
J'essaie de faire un effet...
Un effet de micro?
De voiture qui passe. Non?
Je sais pas.
Ça m'est passé où, tu sais, quand t'endors ton bébé, là, t'as-tu une machine de bruit blanc?
Non.
Moi, j'ai ça, que c'est Carlos Pidane qui nous l'avait donné, puis c'est un petit mouton, puis le nom du bruit qu'on met, c'est... quelque chose genre voiture qui passe dans la rue la nuit sous la pluie.
Hein?
Puis t'entends comme un petit c'est la pluie, puis là t'entends. Puis depuis que la petite est née, c'est ça qu'on met à tous les soirs pour s'endormir.
Ah ouais.
Puis elle aime vraiment ça.
Ah ben oui, ça doit vraiment être relaxant. Mmh,
ça me fait penser à ça. Fait que c'était ça l'effet que j'allais pour.
Préféré! Mel qui passe en char. Préféré!
Wow. Salut!
Salut! oui, c'est bien un podcast de true crime.
Oui, mais pas de bébé.
De bruit de bébé. Ou non,
de char qui passe.
Ouais.
Des bruits de bébé.
Ça a été un peu un podcast de bruit de bébé pendant un couple de mois.
Oui.
Mais ça l'est plus.
On s'en parle encore.
Ouais.
Elle, nos bébés...
sont à garderie.
À garderie.
Ouais.
Puis il faut que je finisse ma banane. J'ai trop faim. J'ai un crime de potin pour vous pendant que je finis ma banane quand même.
Vas-y.
Attends, faut que je lise. Je suis vraiment mal installée. OK. Il y a Gaëlle qui nous a écrit par rapport à l'épisode sur les samouraïs et le Québec. C'est là que tout le monde riait de moi parce que j'étais pas là. Elle dit « Une de mes amies était présente lors de l'attaque du samouraï et elle a aidé 3 victimes. Elle a enlevé son chandail pour l'enrouler autour des plaies. Après, la police l'a félicité pour son geste et a reçu des enveloppes pendant 2 ans après l'attaque pour encore la féliciter et lui dire que c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Elle comprenait que c'était courageux, mais c'était la chose à faire. Et cela l'a traumatisée car elle s'est rendue compte que si c'était elle une des victimes, elle n'aurait pas nécessairement reçu l'aide qu'elle a donnée.
Hmm. Aïe,
c'est un beau geste. C'est triste quand ça finit, mais c'est un très beau geste. Puis elle dit qu'elle reçoit... encore des enveloppes de genre de remerciements et tout, c'est quand même cool.
C'est fou.
Non, c'est quand même capoté.
Ouais, c'est fou. Elle était vraiment courageuse.
Mmh. Félicitations.
Finis ta banane.
OK, je finis ma banane. OK, attends, je vais terminer avec...
Fait que...
gorgée de gin tonic.
Ouais, gorgée de gin tonic, puis après ça, je te raconte mon histoire.
Tu m'as même pas dit qu'est-ce que t'allais me raconter cette semaine.
Tu m'en parles
jamais. Moi, je t'en parle tout le temps.
Mais je te l'ai mentionné rapidement tantôt.
C'est vrai? J'écoutais pas.
C'est l'histoire du pyromane voyeur.
Ah oui, le pyromane voyeur, c'est vrai.
De la ville de Québec.
S'il y a bien 2 titres que tu veux pas dans ta vie, c'est ceux-là.
Ouais.
Peut-être pédophile.
Mm.
Pyromane voyeur, c'est pas top.
Ouais. Puis on pourrait même l'appeler le pyromane voyeur meurtrier. En fait, t'sais.
Ah!
Mm.
OK.
C'est pas un doux.
C'est pas un doux. Qu'est-ce qu'il a fait?
OK, bon, mais mes sources, alors, les articles du Soleil, Narcity, Radio-Canada, il y a Victoria Charlton aussi, elle a fait une vidéo sur ça. Et écoutez, la série qui s'appelle Le Voyeur Pyromane, Elles sont la cible.
Okay.
C'est une nouvelle série qui a été filmée très récemment.
OK.
J'ai écouté ça, de 6 épisodes. Le livre que je n'ai pas lu, mais un très bon livre qui s'appelle Autopsie d'un crime imparfait, de Jacques Côté.
OK. Autopsie d'un crime imparfait. OK.
Alors.
Tu piques mon attention.
L'histoire se déroule à l'automne 1980 dans la ville de Québec.
OK.
On est le 1er octobre 1980 en Hauteville à 20h28. Les pompiers sont appelés pour aller éteindre un incendie qui s'est déclaré sur la rue de Bougainville dans le quartier Montcalm. L'incendie s'est déclaré dans l'appartement du rez-de-chaussée. C'est une jeune femme qui habite là, mais heureusement, elle n'était pas à la maison au moment des faits. Et ce que les pompiers trouvent à l'intérieur est assez troublant. C'est clairement un incendie volontaire. Et la source de l'incendie, c'est le matelas du lit. Hmm? Et sur le lit sont étendus plein de sous-vêtements qui appartiennent à la jeune femme qui habite là.
OK.
Et il y avait des traces d'entrée par effraction.
T'avais pas raconté une histoire, pas le sergent-colonel, je sais pas quoi, là?
Ouais, lui aussi, il fouillait.
C'est une affaire qui fouillait des bobettes. Ça me fait penser à ça.
Il y en avait un autre aussi. Je pense le boucher de Saint-Eustache aussi, il sortait les...
Oui!
Puis il poignardait.
Ouais.
OK. Bref, c'est pas bon signe.
On voit un petit pattern ici, là.
Alors, c'est creepy.
Oui.
Ouais. Et ça ne fait que commencer.
Nice.
Le même soir, on est encore le 1er octobre. Donc ça, c'était 20h28, premier incendie. À 21h13, deuxième incendie, une demi-heure plus tard. Les pompiers sont appelés rue Bourg-Lamarque. Fait qu'encore dans le même quartier.
Pas loin.
Même affaire. Appartement de rez-de-chaussée. Une jeune femme qui était pas là au moment des faits. Ses sous-vêtements sont sur le lit. Le feu a été déclenché sur le lit. C'était environ à 5-10 minutes à pied là, du premier incendie. Il y a des traces d'entrée par effraction. Et dans les deux cas, il n'y avait pas de traces d'accélérant. Avec deux incendies la même soirée, quand même.
Pas de traces d'accélérant, OK.
Non. Non, fait que il a parti son feu avec un briquet, mais pas de
okay.
pas de gasoline par-dessus. Le 16 octobre, donc 15 jours plus tard, 19h18, encore une fois, rue Bourg-Lamarque. Même affaire. Le même soir.
Mais voyons.
40 minutes plus tard, à 20h06, rue de Bernières. Incident, l'incendie est un petit peu plus important, donc une deuxième équipe de pompiers qui est appelée sur les lieux, mais même affaire. Fait que là, après cette soirée-là, c'est clair pour l'enquêteur au service des incendies de la Ville de Québec, André Savard, que c'est le même homme qui a mis le feu aux quatre places.
Mm-hmm.
La même chose. Il y en a un cinquième le 21 octobre à 20h21 rue Saint-Angèle. Donc ça, c'est dans les murs de la Ville.
Attends,
ça veut dire
le quatrième est à 21h06. T'as dit 20h06.
20h06.
Le quatrième?
Le quatrième, oui, 20h06, la même soirée. Mais là, après ça, on est une autre. On est plus tard, là, le 21 octobre.
OK.
Fait qu'on est 6 jours plus tard.
OK, OK, OK.
Fait qu'il y a un cinquième incendie à 20h21 rue Saint-Angèle. C'est à l'intérieur des murs, là, vraiment, mm-hmm. dans la vieille ville de Québec. Même affaire. Là, ça fait 5 incendies criminels en 3 semaines qui ciblent des jeunes femmes qui habitent seules. Fait que là, on peut dire que le niveau de panique de la Ville de Québec
mais là,
est
clair.
Assez élevé.
Le pauvre vieux Québec, avec le samouraï ouais. aussi, c'est après, là, mais...
Et donc, les jeunes femmes vivant seules paniquent et ont raison d'être paniquées. Et là, bon, je te parle du pyromane, mais il y a aussi le voyeur. Parce que là, en plus de ces incendies-là, ben il y a plusieurs femmes qui ont contacté la police dans les dernières semaines pour dire qu'il y a un voyeur, un rôdeur qui épie aux fenêtres du même quartier, là, du quartier Montcalm, Saint-Jean-Baptiste. Donc, plusieurs reprises, là, mettons, des femmes qui ont vu comme un homme à travers la fenêtre, ah. genre, tu sais, qui étaient comme assis comme sur l'escalier du balcon, puis qui regardaient à l'intérieur.
Oh my God! Hey, tu dois-tu faire le saut? Tu te changes, puis genre... Même tu te changes pas.
Tu vis ta vie.
Ouais.
Boum. Puis clairement, tu sais, le pyromane, il observait ses victimes avant parce que souvent, le feu était déclaré, là, mais genre juste après que la victime ait quitté la maison, au fond. Parce que le feu avait quand même eu le temps de brûler longtemps, tu sais.
OK.
T'sais, comme il guettait au moment qu'il partait, il rentrait. Il mettait le feu. Fait que là, les femmes avaient vraiment peur à Québec. Alors, tu sais... Les habitudes ont changé à cause de ces événements-là. Fait que, dans le fond, les femmes sortaient plus sans être accompagnées. Elles rentraient toujours en gang d'amis ou genre accompagnées d'un ami de gars. Dans les bars, c'est genre tout le monde parlait juste de ça.
C'était vraiment ben, c'est sûr.
Le truc. Là. C'est pas une grosse ville, Québec. Là. Le 22 octobre, c'est la pleine lune. Oh oh.
Oh oh.
À 20h. Ben, en fait, non, ça, c'est pas clair. Dans le documentaire que j'ai écouté, ça dit 20h28, mais après ça, dans toutes les autres sources, j'ai vu que c'était à genre 3h du matin.
OK, une bonne
mais
différence quand
même. Je pense que ça a comme plus de sens à 3h du matin. Fait qu'on va dire dans la nuit. Dans la nuit okay. du 22 au 23 octobre. Les pompiers sont appelés au 540 rue de la Tourelle, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Fait que juste à l'extérieur des murs. C'est la voisine du haut, Françoise, qui s'est rendue compte qu'il y avait le feu en bas, dans l'appartement d'en bas. Puis elle a essayé d'appeler sa voisine plusieurs fois, mais c'est comme si la ligne était coupée, dans le fond. Fait que finalement, elle a appelé les pompiers. Et aussi, Françoise, elle avait, vers comme 1h du matin, elle avait entendu un bruit ou comme un cri, mais elle s'était comme rendormie. Elle était comme endormie, puis elle s'était rendormie après. Mais t'sais, sur le coup, elle pensait que c'était genre comme un cri de chat ou genre un bébé qui t'sais, c'était comme pas clair.
OK.
Alors là, encore une fois, un feu. Mais là, cette fois-ci, quand les pompiers rentrent dans l'appartement, ils découvrent une scène d'horreur.
Oh non.
Cette fois-ci, il y a une victime. Il y a une femme morte sur le lit. Elle est nue, sur le ventre, les mains attachées derrière le dos, un chiffon autour du cou. Elle a été agressée sexuellement et elle était morte quand le feu a été mis. Donc, c'est pas le feu qui l'a tuée. La cause de la mort serait probablement strangulation, mais elle avait été également poignardée à coups de couteau. Il y avait aussi quelques blessures que, sur le coup, le pathologiste n'a pas pu identifier c'était fait avec quoi. Mais on y revient plus tard.
Tabarnouche. Violée, poignardée, étranglée.
Brûlée.
Brûlée.
Ta. Il y a un bidon d'essence qui est retrouvé sur le lit. Donc, pour la première fois, il y a eu usage d'accélérant. Ouais. Alors que les autres fois, non. Et une victime. C'est les deux seules différences. Parce que sinon, c'est le feu sur le lit, la femme qui habitait seule dans un appartement du rez-de-chaussée, dans le même quartier, entrée par effraction. Donc, okay. Vraiment, le même modus operandi que le pyromane. Et la victime, c'est France Lachapelle, une jeune comédienne qui n'avait que 22 ans.
Oh.
Et là, il faut que je fasse une petite pause pour t'expliquer c'est qui France et à quel point c'est proche de moi.
Hein?
Ouais, quand même. C'est une petite ville Québec, tout le monde se connaît, mais voilà la preuve. Okay. Dans le fond, France était une comédienne de Québec. Donc, ma belle-mère la connaissait.
Mm-hmm.
C'était pas une amie nécessairement, mais c'était quand même, tu sais, elles évoluaient dans les mêmes cercles sociaux, tu sais, savaient très bien c'était qui. D'ailleurs, ma belle-mère, c'est Lise Castonguay, pour ceux qui ne savent pas, incroyable comédienne. Oui. On la voit vraiment pas assez à la télé. S'il vous plaît, engagez-la plus.
Elle est tellement nice en plus.
Oui, elle est vraiment, vraiment adorable en plus. Autre lien, Jocelyne, la tante par alliance d'Anthony, en fait.
Ouais.
Elle aussi la connaissait. Connaissait France.
Anthony, c'est le chum Island, la gang. Le fils de Lise.
Oui. Et d'ailleurs, Jocelyne, elle nous avait déjà envoyé un potin sur Albert Guy récemment.
Ah!
Elle écoute Crime de Bine.
Allô, Jocelyne.
Elle va nous entendre. Et d'ailleurs, elle a été interviewée dans la série.
Ah ouais?
Dans le documentaire que j'ai
écouté. Oh my god.
Et dans cette gang d'amis-là, il y avait aussi Agnès Maltais. Qui est une femme incroyable, que je connais un peu moins de proche, là, mais qui est, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est une ancienne ministre péquiste de l'emploi et de la solidarité sociale. Elle a été aussi ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre responsable de la condition féminine et de la capitale nationale.
Wow.
Ça, c'était sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois en 2012-2013, entre autres.
OK.
Et finalement, Robert Lepage. Était le meilleur ami de France Lachapelle.
Ah ouais?
Alors, pour ceux qui connaissent pas Robert Lepage, ben de un, vous manquez vraiment quelque
ouais.
chose. Mais plus sérieusement, Robert Lepage, c'est un pilier du théâtre québécois. C'est vraiment une fierté nationale. C'est un grand dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur qui fait rayonner le théâtre québécois partout dans le monde. Ses pièces de théâtre ont été jouées littéralement partout dans le monde. C'est ça, il est réalisateur aussi. Il a fait plusieurs films, dont Triptyque, qui est un super bon film dans lequel joue Lise et elle est excellente. Voilà. Alors, comme,
la plug.
Il fallait que je plug.
OK.
Fait qu'il y a quand même beaucoup de liens avec cette femme-là, avec France. Alors, c'est ça. Elle faisait du théâtre avec tout ce monde-là. Elle était membre du groupe Les Folles Alliées, qui était un groupe humoristique des années 80 qui parlait des préoccupations des femmes de l'époque. Agnès Maltais faisait partie aussi des Folles Alliées. Elle a fait son cégep à Garneau, comme moi. Puis elle vendait aussi des toiles sur la rue du Trésor. Mais c'est pas elle qui les peignait, c'est genre, elle les vendait comme. Okay. Puis c'était comme une belle femme, ça vendait plus que, mettons, le peintre.
Ça a du sens.
Au moment de son assassinat, elle était en répétition pour un spectacle qui devait être présenté au Théâtre La Bordée de Québec. Elle venait d'une bonne famille, assez aisée. Et elle avait un frère jumeau nommé François Lachapelle.
France et François?
C'est France et François.
Ah.
C'est cute. Et aussi, France et François avaient perdu leur frère quelques années plus tôt.
Il a
été tué par la police.
Hein?
Oui. Alors qu'il était encore adolescent. J'ai pas plus de détails. Mais il aurait été comme arrêté, puis comme mal... comme brutalisé par la police.
Jusqu'à la mort.
Ouais. Il en est mort.
La pauvre famille.
Vraiment. Vraiment. Wow. Fait que le seul enfant de la famille qui reste, c'est François.
Oh.
Alors, l'enquête. L'assassinat de France est vraiment comme le point culminant de toutes ces...
Le pire, c'est que ça, c'est pas prémédité, c'est sûr. Elle était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Ah oh, ouais? OK. OK.
Moi, je pense que c'est une escalade.
OK.
Ouais.
Vas-y.
Alors, c'est vraiment le point culminant là, de toute cette série d'événements qui a traumatisé la ville de Québec dans les années 80, ben, en 1980. Fait que les, évidemment, les enquêteurs ont beaucoup, beaucoup de pression pour résoudre le meurtre. Apparemment, ils ont mené environ 900 interrogatoires.
900?
Ouais.
Tableau.
Vraiment intense.
Ben, il fallait qu'ils trouvent les réponses. Ben, oui. Il n'y avait pas le choix.
Alors, les policiers refont la dernière journée de France. Donc, la veille de sa mort, ben, en fait, là, comme le soir de sa mort, le 22, répétait un spectacle pour l'aborder. Et en soirée, Robert Lepage et France sont allés voir un spectacle ensemble, puis ils ont mangé au restaurant Le Hobbit, qui existe encore aujourd'hui.
Ah ouais? Ouais, OK.
Le Hobbit, ouais, sur la rue Saint-Jean. Robert ensuite l'a accompagné jusqu'en face de chez elle, vers 1h du matin. Ben, minuit, 1h. Je sais pas les heures exactes.
Et il prend la peine de la raccompagner.
Ouais. Parce que justement, tu sais,
ben oui,
les gars faisaient pas l'attention de raccompagner leurs amis de filles parce que à cause de la série d'incendie, tu sais. Puis en plus, tu sais, sur le coup, ils ont comme hésité, oh, on prend-tu comme un verre de plus chez nous? Puis là, finalement, Robert a fait comme, ah non, tu sais, je vais rentrer, comme, ah, sinon on va se coucher trop tard, on va papoter toute la nuit. Puis... Fait qu'évidemment, il s'est toujours demandé si j'étais rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il était déjà à l'intérieur?
Ouais, c'est ce qui était déjà là. Est-ce que j'aurais pu éviter ça? Est-ce que je serais mort moi aussi? T'sais, comme...
Mais en même temps,
il a un peu toujours voulu de ne pas être entré. T'sais.
Comment? Il n'y a absolument aucune chance que tu puisses savoir. Il l'avait déjà ramené puis tout. Là.
Ouais,
il
avait ça.
Quand même...
Mais ça fait quand même de Robert le suspect principal au début de l'enquête, ben parce que c'est la dernière personne à l'avoir vu en vie. mais au moins, il y a comme pour lui, il y a des gens qui l'ont vu tout de suite après, parce qu'en rentrant vers chez lui, après avoir quitté France, il a croisé Monique, une amie, sur la rue. Puis après ça, il est arrivé chez lui, puis son conjoint était là.
OK.
Enfin, il y a comme des gens qui
peuvent dire, alibis,
il est arrivé comme... Il aurait fallu qu'il fasse vraiment ça rapidement, le meurtre, pour que tu sais ça marche, là. Mais bon, la police au début est comme fixée sur Robert. Là,
ah ouais?
Ah ouais, son, comme, c'est le suspect principal. Fait qu'il est interrogé là, mais pendant des heures et des heures, puis plusieurs fois. Puis la police sont comme, OK, là, j'ai un scénario pour toi. Là. Fait que dans le fond, t'es gay, mais là, t'as voulu coucher avec elle, puis ça n'a pas marché. Fait que là, tu t'es fâché, puis tu l'as tué.
Oui.
Là, dans le documentaire. Robert, il raconte ça. Et sa réponse est « Êtes-vous fucking sérieux? » OK, une excellente réponse.
Rien à ajouter.
Il accepte de passer un polygraphe, mais le résultat est non concluant. Donc, là, il dit, ils font bien la vérité. Bref, fait que ça a été vraiment un moment stressant pour lui, en plus d'être comme dans le deuil, d'avoir perdu sa meilleure amie. Comme, il est vraiment suspecté par la police. Mais évidemment, il n'y a rien à voir avec le meurtre. Et d'ailleurs, c'est ces événements-là qui lui ont inspiré la pièce et le film qui s'appelle Le Polygraphe.
C'est ça que j'étais en train de penser. C'est sûr que ça l'a inspiré pour quelque chose.
Ouais.
OK.
Ouais. J'ai pas vu le film, mais je suis très curieuse de le voir maintenant.
Ouais, vraiment.
Il y a d'autres personnes qui sont interrogées, dont Alain Filion, qui était le conjoint de France à l'époque. Il a également fait un polygraphe, mais rapidement, la police l'écarte de la liste des suspects. Fait qu'au début de l'enquête, les policiers, là, ils se concentrent vraiment sur comme le cercle de comédiens proches de France. Fait qu'ils sont comme convaincus que c'est comme quelqu'un dans la gang de comédiens.
Okay.
Fait que c'est vraiment, là, tous les comédiens, ils passent, là, genre, des gros interrogatoires. Mais ils perdent leur temps à faire ça parce que la réponse n'est pas là, malheureusement. Fait qu'ils perdent quand même du temps crucial, là, au début de l'enquête à regarder dans la mauvaise direction. Pendant que la police enquête, c'est pas fini, les incendies. Le 1er novembre, à peine une semaine après le meurtre de France, à 23h02, un septième incendie déclaré sur la rue Murray.
La rue Aïza?
Oui. Cette fois-ci, c'est un édifice plus grand, par exemple, comme plusieurs appartements, alors que les autres, c'est comme des mini, les petites maisons du, que c'est comme transformé en deux petits appartements.
Ouais.
Là, c'était dans un, plusieurs appartements, ben, dans un building de plusieurs
appartements.
C'était
un beau quartier,
puis c'était un petit peu plus tard que d'habitude aussi, 23h02.
C'est pas à son habitude.
Non. Ensuite, le 12 novembre, à 19h45, rue Sainte-Claire, un huitième incendie avec les mêmes caractéristiques encore.
Mais pas de victime.
Non.
OK.
Non. Le 18 novembre, le Journal de Québec reçoit un appel anonyme d'un homme qui leur demande de se rendre aux Galeries de Charlebourg et que, en allant là, ils vont trouver un communiqué dans un bottin téléphonique de la cabine téléphonique. Fait que les journalistes se rendent sur place et trouvent effectivement une lettre. Elle serait du voyeur pyromane. Donc, ça n'a jamais été prouvé que c'était vraiment
de
du
lui.
Voyeur pyromane. Mais je te lis. Qu'est-ce que ça disait?
OK.
Ça dit « Journal de Québec. Je suis le voyeur de la haute ville, comme vous m'appelez. J'ai mis le feu à 5 endroits, mais je n'ai pas tué Mademoiselle Lachapelle, car elle était déjà morte lorsque je l'ai allumée. Je frapperai bientôt le voyeur. » C'est fucké.
Hein?
C'est très fucké. Puis, en plus, il y a plein de fautes d'orthographe. C'est comme vraiment bizarre.
OK.
Genre « lorsque je l'ai allumée, allumée E-R. »
OK.
Malheureusement, la police n'a jamais testé la lettre pour empreinte ou ADN.
Mais oui, il y en a.
Fait qu'on ne saura jamais si c'était vraiment le coupable ou pas qui a écrit cette lettre-là. La police était convaincue que c'était de la bullshit. Ils ont comme pas cru du tout que c'était le voyeur pyromane qui l'avait envoyé pour vrai.
Mais en même temps, si... Non, c'est bien frustrant.
Mm-hmm.
Colin.
Le 22 décembre, à 16h58, rue Fraser, fait qu'encore dans le quartier Montcalm, encore la même affaire, mais la différence, c'est que là, les sous-vêtements étaient dans un sac, puis le pyromane serait rentré par la porte avant, alors que normalement, c'est toujours par la porte arrière. Donc, là, on est rendu au 9e incendie.
Okay.
Identique, là. Ben,
semblable.
Et aussi, dans les semaines qui suivent, il y a le voyeur qui fait l'objet de plusieurs signalements et d'autres femmes rapportent avoir été agressées. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui disent avoir vu un homme, genre les épier à leur fenêtre. Entre 1976 et 1980, il y a 10 femmes qui ont été assassinées à Québec.
Hein?
C'est
beaucoup? En 4 ans?
Oui, vraiment. Pour une petite ville là, comme Québec, là.
C'est pas si petit que ça, Québec. Arrête de dire que c'est petit. C'est
un gros village, Québec.
Mais oui, dans le sens que tout le monde se connaît, mais c'est pas une petite ville.
À l'époque, ça devait être genre un demi-million de personnes. Peut-être.
Mais 10 femmes en 4 ans, c'est énorme.
C'est vraiment énorme, vraiment. Fait que là, tu sais, le climat de peur reste. Puis tu sais, dans tout ça, c'était quand même les années où les femmes se libéraient, puis comme le mouvement féminisme grandissait. Fait que là, un an après le meurtre de France, donc là, dans la nuit du 24 octobre 1981, il y a des centaines de femmes qui marchent pour revendiquer le droit de circuler en toute sécurité dans les rues. Fait que entre autres, elles passent devant la Maison de France pour lui rendre hommage. Mais c'est ça, tu sais, comme les femmes sont comme... On veut se sentir en sécurité, on veut être capable
ben
de
oui, dans notre ville,
toute seule
chez nous.
Le soir, tu sais. C'est ça.
Sans pas trop demander. Là.
Non. OK. Là, en février 1981, y a une femme qui a comme aperçu le voyeur, ben un voyeur dans le fond. Puis là, plus tard, les policiers l'appellent au poste pour lui demander de venir voir un line-up, voir si elle peut reconnaître le voyeur. Et là, au même moment, la police appelle Robert et d'autres comédiens de la gang de France pour leur dire « Ah, venez au poste, on a un suspect potentiel et on veut savoir si vous l'avez déjà vu quelque part. » Mais dans le fond, ils voulaient juste que les gars viennent dans le line-up. Fait que Robert Lepage puis ses amis, ils se retrouvent dans le line-up.
Ben voyons donc. Ils ont le droit de faire ça?
Dans l'air. Donc, ils étaient pas full contents.
Ah!
La témoin n'identifie pas aucun des comédiens, mais elle identifie un dénommé Jocelyn Giguère, 18 ans, comme étant le voyeur.
18 ans?
Ouais.
OK.
Donc, il était vraiment jeune. En tout cas, fait que là, interrogé par la police, ben Jocelyn, il confesse avoir allumé 6 incendies. Mais il confesse pas le meurtre. Puis, l'enquête n'a pas pu conclure que c'était vraiment lui, le pyromane, ou comme...
Non, c'est quoi ce soir-là avec aucune conclusion?
Fait qu'à part la confession, il n'y a rien de Jocelyn.
Ils n'ont pas de preuves, rien.
Non. Fait que non. L'enquête pour le meurtre de France stagne jusqu'en 1982. Alors, on est le 22 décembre 1982. Francine Lafontaine. Tout le monde s'appelle François, Francine, Françoise, France, comme... Tu sais, même la voisine d'en haut, elle s'appelait Françoise. Comme... Ouais. Tout le monde, c'est vraiment drôle. Fait que là, Francine Lafontaine, qui est une comédienne et qui était une amie de France, elle sort de chez elle, puis il y a un homme qui l'attend au coin de la rue. Il vient lui parler, puis il lui demande « C'est bien toi, Francine Lafontaine? T'étais amie avec France Lachapelle? » Puis là, tout de suite, Francine, elle a comme un feeling.
Elle a capoté.
C'est lui. C'est ça, c'est lui. Puis là, il dit « Écoute, faut que je te parle. J'ai des choses à dire, j'ai des poèmes que je veux te montrer. »
Hein?
Fait que là, elle sent qu'il y a vraiment des choses à dire, puis elle accepte d'aller prendre un café avec lui. Quand même.
Lieu public.
Elle a du culot. Mais ouais, au moins, lieu public, tu sais, elle a bien fait. Fait que là, il y avait vraiment des genres de poèmes.
À l'époque, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Là. Tu peux pas, genre, distraitement
composer le 9-1. Ouais. Fait que là, il y avait vraiment comme des poèmes, genre, écrits sur des bouts de papier. T'sais, il était vraiment bizarre, le gars. Mettons, il y avait un bout de papier écrit, genre, viol, feu, agression.
Très beau poème.
D'autres mots de main. Oui, très beau poème. Il était très désorganisé, puis il lui parle de France. Puis il finit par lui dire que c'est lui le meurtrier de France.
Hein? Dans un café chill de même.
Dans un café de même. Mais il est assez dur à suivre parce que parfois, il est seul dans ce qu'il raconte. Des fois, ils sont deux. Il parle souvent au « on ».
Mm-hmm.
Fait que dans le fond, il disait qu'il y avait un voyeur et un assassin. C'est comme s'il y avait, tu sais, comme deux personnes, mais en même temps, tu sais,
dans sa tête?
Mais dans sa tête, ouais. Puis... Francine a dit, je lui ai demandé c'est qui avait eu le plus de plaisir, puis il m'a dit les deux. Okay.
Elle est bonne d'avoir eu ça à faire.
Ouais, elle était vraiment calme, puis elle posait comme vraiment les bonnes questions, tu sais, pour comme qu'il se sente à l'aise.
S'incrimine lui-même.
Comme, ouais. Puis là, elle lui demande à un certain point, tu sais, elle voit qu'il est comme un peu obsédé par elle, tu sais, qu'il savait très bien était qui, puis tout, puis il a dit, fait que dans le fond, tu voudrais le refaire avec moi, c'est ça? Il répond oui.
Oui?
Oui. Puis il dit que ce serait vraiment important, en fait, pour lui de le faire deux fois. Que la deuxième fois, ce serait important. Puis elle lui dit, elle est vraiment bonne, elle dit, écoute, c'est pas un bon soir pour ça, mais donne-moi ton numéro de téléphone, puis ton adresse, puis on va se reprendre.
Hé! Elle est donc bien forte! Genre, wow! Vraiment.
Good job, Francine. Puis là, il lui dit, mais là, tu dis ça à personne. Là. Francine, non, inquiète-toi pas.
Mm.
Puis là, il dit, OK, il dit où il habite, puis il s'en va.
OK.
Évidemment, Francine, ça va voir la police.
No shit.
Alors, le lendemain, donc le 23 décembre 1982, Christian Gagnon est arrêté.
OK.
Qui est Christian Gagnon? Ce qu'on sait sur lui, il était dans sa mi-vingtaine en 1982, donc environ 25 ans. Il vient d'une famille assez pauvre, de 5 enfants. Christian avait une sœur jumelle. C'est drôle parce que France avait un
France,
jumeau.
Ouais, c'est Christiane.
Non, on sait pas son nom. Elle témoigne dans le documentaire, mais sa face est cachée, puis son nom est pas dit.
Mon guess, c'est qu'elle s'appelle Christiane.
Ouais, on va dire qu'elle s'appelle Christiane.
Pas pour rire d'eux, c'est vraiment...
Non, c'est juste pour continuer dans le concept des jumeaux qui ont
des Français et François et Francine et Françoise.
Ses parents se sont divorcés quand il était petit, fait que lui et ses frères et sœurs, ils ont dû grandir dans des familles d'accueil, puis séparés. Fait qu'il a été séparé de sa jumelle, de ses frères et sœurs, rapidement. Et malheureusement, pour lui, il serait pas tombé dans des bonnes familles d'accueil. Alors que, mettons, tu sais, sa jumelle, elle témoigne qu'elle a quand même été chanceuse puis est tombée sur des gens qui ont vraiment bien pris.
On n'avait pas qu'on se séparait des jumeaux.
Ouais, c'est tellement
cruel. Ben, des frères et sœurs déjà là, hein, plus des jumeaux.
Ouais. Il aimait écrire des poèmes. Il aimait beaucoup le théâtre. Il voulait être une vedette. Il trippait sur Peter Gabriel. C'était comme son idole.
OK.
Et il adorait les comédiennes. Comme... Il trippait vraiment là-dessus. Là. C'est comme il idolâtrait
genre
vraiment.
Genre un niveau vraiment trop élevé.
Ouais, vraiment.
Mm-hmm.
Puis même qu'il a écrit un poème qui parlait de France en 1981.
France, viol, meurtre, agression.
Ouais, c'est ça, des beaux poèmes comme ça. Et apparemment qu'un peu avant son arrestation, donc quelques semaines avant, à deux reprises, il se serait présenté à l'hôpital psychiatrique. Hein? Une fois, il avait la face en rouge, puis il parlait de partir à un parti politique.
Genre pain?
Ouais. Okay. Fait qu'ils l'ont gardé sous observation un certain temps, puis finalement, ben, ils l'ont laissé repartir parce qu'il ne semblait pas présenter de danger pour lui-même ou pour autrui.
Mais le gars, il est clairement schizophrène.
Mais ouais, ça va pas bien dans sa tête. Il s'est représenté une deuxième fois, et la deuxième fois, il était maquillé et habillé comme la moitié de son corps en femme, puis l'autre moitié en homme.
Viens me dire que cette personne-là, elle va bien.
Puis il disait que la moitié femme, il disait que c'était sa jumelle.
Oh mon Dieu!
Mais cette deuxième fois-là aussi, il a été relâché. C'était vraiment quelques semaines avant, avant le meurtre. Donc, les policiers l'arrêtent et l'interrogent. Christian, il avoue. Mais tu sais, il est pas tout là. Là, il est clairement comme en état un peu psychotique pendant son interrogatoire. Il est très mouvementé. À un certain moment, il demande une dactylo pour écrire sa confession, puis d'autres choses confuses. Puis...
Il y a clairement des traumatismes, là, ce...
Ah non, il est pas bien. Puis c'est ça, il raconte aussi qu'il était deux, comme il avait dit à Francine, donc le voyeur et l'assassin, que ça a mal viré, qu'il a besoin de se faire soigner. Puis là, il raconte, dans le fond, comment il a connu France, qui dit qu'il l'avait croisé pour la première fois sur la rue du Trésor, avant des peintures sur la rue du Trésor, en octobre 80, dans le fond. Fait que juste quelques semaines avant le meurtre. Puis il allait aussi au Hobbit régulièrement, où il la voyait. Puis il dit qu'il l'avait suivi pendant une semaine avant le meurtre.
Et c'était fucking prémédité, ouais. Son affaire!
Oh, ouais, non, il était complètement obsédé par Francine. Par France.
France.
Et une semaine avant le meurtre, il s'était pointé chez France, puis il l'observait par la fenêtre. Et son chum l'a vu, le chum à France.
Elle avait un chum?
Oui, elle avait un chum. Oui, Alain.
Puis il l'aurait vu?
Ça, son nom, c'est quelque chose, Alain. Oui, il l'a vu, puis il est sorti, puis il l'a comme confronté, puis il est comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, au début, quand il a vu qu'il l'avait vu, il s'est juste comme accroupi plus. Genre, vraiment louche. En
tout cas, finalement. Je peux toujours te voir.
Son chum, il a dit d'écrisser. Il a décrissé, mais c'était lui. Comme une semaine avant.
Il a vu l'assassin de sa blonde une semaine avant qu'il la viole. Traumatisant.
Et il dit que pour s'introduire chez France, il a trouvé des clés dans la boîte aux lettres, puis qu'il est rentré comme ça.
Et... Pire idée, ça. Faites pas ça, man. Les clés dans la boîte aux lettres ou en dessous du tapis, calique.
Non, c'est pas une bonne cachette.
Je pense pas qu'aujourd'hui les gens font encore ça, mais.
Il dit qu'il est rentré chez elle, puis qu'il a baissé ses culottes, mais qu'elle ne voulait pas faire l'amour. Et là, il aurait avoué des détails, parce que là, jusqu'à là, c'est quand même des choses que quelqu'un d'autre aurait pu inventer ou savoir, connaître, à part les journaux.
Les médias.
Mais dans le fond, il dit des informations que la police gardait secrètes, donc des hold-back evidence. Alors, il aurait parlé qu'il y avait deux types de cordes qu'il aurait utilisées pour le meurtre. Donc, une corde qui venait de chez France et une autre qui venait d'un chantier de construction à côté de l'autoroute du Frein. Et aussi, il explique qu'il a poignardé France avec une broche à tricoter. Puis tu sais, le pathologiste, il avait remarqué des blessures...
Qu'il n'était pas capable d'identifier avec quoi ça avait été fait.
Puis ça fitait exactement avec ça. Il parle aussi du chiffre 2. Comme il est vraiment comme une signification avec le chiffre 2 dans sa tête.
Le deuxième meurtre.
Le 22 octobre, il confesse le 22 décembre... C'était important de le faire deux fois. Puis avec une femme qui avait les mêmes initiales que France Lachapelle, Francine Lafontaine.
J'y ai pensé, ouais.
Ouais. Puis aussi le deux, tu sais, France avait un jumeau, lui avait une jumelle.
Aïe!
Et là, lorsque sa photo est montrée dans les médias, il y a plusieurs femmes qui appellent la police pour dire qu'elles ont été agressées par Christian, comme qu'elles reconnaissent. Et finalement, apparemment qu'il y a juste un des cas qui serait allé comme jusqu'en cours, vraiment, d'agression sexuelle. Donc, Christian a été
C'est bien triste qu'il y en ait juste un qui était en cours.
Oui, les autres, il manquait de preuves. Puis
puis
aussi, chez lui, les policiers trouvent des photos de femmes qu'il aurait prises à leur insu. Il était voyeur, ça c'est sûr. Il y a une autre témoin, Louise Cloutier, qui témoigne qu'à l'automne 1982, elle était dans un bar. Puis il y a un gars qui la suivait dans le bar, puis qui n'arrêtait pas de l'aborder. Il disait qu'elle la trouvait belle. Puis là, elle voulait vraiment juste rien savoir, puis elle l'ignorait. Puis il a dit même, à un certain moment, il lui a dit « J'ai tué une femme. »
Ah! Casual conversation?
Ouais. Comment aborder une femme? Icebreaker. Louise finit par quitter le bar vers 11h, mais vraiment craintive, elle sent pas bien. Puis finalement, elle a été suivie en retournant chez elle. Elle entendait la personne derrière
elle.
Elle savait, elle l'entendait. Mais elle s'est pas retournée, elle osait comme pas. Puis là, elle est juste rentrée chez elle, elle est montée en haut, puis elle a comme fermé la porte, puis elle a juste écouté. Puis ensuite, elle a entendu la porte d'entrée claquer. Fait que j'imagine qu'elle était, je sais pas si elle a comme elle pas barré la porte. Pas. Ouais, je sais pas trop. Puis là, elle a juste retenu son souffle. Puis finalement, pas longtemps après, elle a entendu la personne repartir puis refermer la porte. Puis là, elle pense que ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle habitait comme... Elle avait des colocs et tout, mais il y avait comme vraiment beaucoup de souliers dans l'entrée.
Ah!
Fait qu'il a peut-être eu peur qu'il y avait du monde.
Oh my God! T'imagines?
Puis quand elle a vu le portrait, ben la photo de Christian, elle l'a reconnu direct. Elle disait lui.
Wow!
Ouais.
Et elle a passé à deux cheveux de la mort, cette femme-là, là. Puis une mort atroce, rien de moins.
Et là, j'ai un potin de Jocelyne, la tante Anthony. Mm-hmm. Elle dit, donc, à l'automne 1980, là, quand tout le monde était stressé et tout, ben, elle rentrait d'un bar, qui était le bar Les Yeux Bleus aujourd'hui, qui s'appelait La Cour à l'époque, vraiment dans le Vieux-Québec.
Ouais, je sais où.
Puis, elle connaissait vaguement Christian. Comme elle, parce qu'il se tenait dans les bars, tu sais, comme...
Ouais,
elle
connaissait un il était clairement ça. Souvent dans le quartier, en ce moment.
Fait que là, elle sortait du bar, puis là, elle croise Christian, puis elle le reconnaît, puis là, il dit « Ah, veux-tu que je t'accompagne chez toi? C'est plus sécuritaire. » Fait qu'elle dit oui.
Parce que moi, je tue des gens, puis je fais des...
Fait qu'elle a marché comme un 10-15 minutes avec Christian, ben normal, conversation très sympathique, fait que finalement, il arrive à Place Royale. Elle habitait chez ses parents dans le Petit Champlain, dans le fond, à Place Royale. Puis, une fois arrivée devant chez elle, ben, elle dit « Bon, ben merci. Ben, je suis arrivée. » Puis là, il se retourne vers elle, puis il dit « Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je suis le voyeur pyromane? » Elle croit pas. Puis là, il dit « Si tu cries, est-ce que ton père va venir à la fenêtre? » Elle a dit oui, c'est justement sa fenêtre de chambre qui est là. Mais si je crie, ben mon père va apparaître, puis M. Fournier apparaît, puis M. Robitaille apparaît, puis M. Desjardins, M. Lheureux, M. Bouffard, M. Dionne, en 10 secondes, sont tous en place. Puis il dit, en tout cas, t'es chanceuse parce que t'en aurais mangé toute une.
Pardon?
Puis il est parti.
Elle a vécu ça?
Ouais. C'est fucké. C'est vraiment fucké.
J'ai pas de mots. La tante Anthony.
Ouais. Ouais. C'est vraiment fucké.
Hey, c'est pas quelque chose que t'oublies, ça.
Eh non. Puis là, quand il a été arrêté, il était comme... Ben oui, est-ce
Ben, c'est lui.
C'est logique.
Il me disait la vérité, puis ouais, j'ai passé ça. À deux cheveux de mourir.
Parce que c'est sûr qu'elle, après, sur le coup, tu dis qu'il est fucké, mais...
Il est peut-être un peu bizarre.
C'est pas lui pour vrai, ouais. T'sais, comme, voyons.
En même temps, quelle bonne blague. Si ça avait pas été lui,
vraiment,
genre.
Une blague à faire.
Très bonne blague. Genre, viens pas.
Alors, son procès. Le 24 avril 1984. Bon, il a reçu une évaluation psychologique. Donc... Trouble schizo-affectif, forme bipolaire, trouble de personnalité mixte, schizophrénie, très sadique et pervers.
Ça me semble exact.
Dans ses rencontres avec les psychologues, il disait que son crime était parfait, puisqu'il avait brûlé les preuves, et il se disait toujours comme en amour avec France. Donc.
Fait que ça fait que c'est correct.
Ah ouais. Mais il a quand même été jugé apte à subir son procès.
OK.
Micheline Saint-Laurent, qui était son avocate, a dit que la façon... Bon, c'est qu'elle a le défend. Elle a dit que la façon dont il a été interrogé, ça passerait pas aujourd'hui. J'ai pas de misère à le croire. C'est sûr que le policier était plus cow-boy à l'époque, mais ça veut pas dire que c'est pas lui le coupable. Autant, bon.
Il a quand même tout avoué, quand même.
Alors, c'est sûr que, bon, est-ce que...
Il aurait avoué
les
sinon.
Les hold-back evidence qu'il a dit, est-ce que ça se pourrait toujours que la police lui l'ait pointé dans la bonne direction pour dire les bonnes affaires? Ça pourrait être... On n'a pas de... Ça n'a pas été filmé.
Il n'y a pas d'enregistrement.
Ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, ça l'est, fait qu'on on pourrait voir ces choses-là, mais bon. Écoute, le 26 juin, il est reconnu coupable, mais rapidement, la décision est portée en appel, donc par son avocate, et parce que, dans le fond, a dit que une preuve cruciale de la défense a été injustement écartée, ainsi qu'un témoin important. Dans le fond, je te raconte, c'est qui le témoin qui a été écarté. C'est le témoignage de l'ami de Christian, qui s'appelle Denis Côté. Puis lui, dans le fond, il collectionnait quand même les articles de journaux et tout. Et il dit que Christian l'a appelé le 22 décembre, juste avant d'aller rencontrer Francine, pour lui demander des détails sur le meurtre de France.
Il savait que c'était lui?
Non, dans le fond... Christian, il demandait des détails à Denis, genre, il demandait comme, peux-tu me raconter qu'est-ce qui s'est passé?
Le contrat, ok.
Comme, est-ce qu'elle a été poignardée? Tu sais, comme si...
Il voulait savoir qu'est-ce que le public savait?
Il voulait savoir des détails pour pouvoir aller raconter la bonne chose à Francine. Comme si, c'était pas lui pour vrai, dans le fond, puis que tout ce qu'il aurait dit à Francine, il l'aurait su de son ami qui a lu ce qu'il avait gardé dans les journaux, tu sais.
Ouais.
Puis que c'est vrai que c'est weird. En même temps, t'sais, les détails, hold back evidence, c'était pas dans les journaux. Fait que t'sais, il a quand même confessé ça. Mais bon, fait que dans le fond, il demande un appel basé sur ça parce que ce témoin-là, Denis Côté, il a pas pu témoigner. Fait que
pourquoi il a pas pu témoigner?
Je sais pas pourquoi.
Ils l'ont pas admis?
Le juge avait décidé que c'était pas admissible parce qu'il disait que c'était des oui-dire.
Mais même là. En tout cas.
Mais à cause de ça, la cour d'appel donne raison, puis il y a le droit à un deuxième procès.
OK.
Alors, le 28 avril 1987...
C'est quand même fair.
Quand même. Écoute.
C'est quand même juste.
Alors, deuxième procès pour meurtre. Et là, lors du second procès, c'est le juge Jean Bienvenu qui préside ce procès-là, et il sera sévèrement critiqué pour ses interventions mal avisées et son manque d'impartialité envers l'accusé. Alors, à cause de ça, encore une fois, c'est porté en appel. Il a été reconnu coupable aussi cette fois-là. Mais la décision est portée en appel vraiment parce que, dans le fond, l'avocate de Christian a dit que le juge a usurpé le rôle des avocats de la couronne et de la défense. Il a, avec de l'intimidation et du sarcasme, tu as dit avec un juge de même, on n'a pas besoin d'une poursuite, là, comme... Ils faisaient leur job, là. Fait que, t'sais, il donnait son opinion sur la crédibilité et la culpabilité de Christian. Et il a même contre-interrogé Christian plus que l'avocat de la défense puis de la couronne.
Ah, ouais?
Alors, la cour d'appel donne raison que vraiment le comportement du juge était vraiment inapproprié.
Encore une fois, c'est quand même juste.
Ouais, quand même. Alors, nouveau procès ordonné. Mais là, t'sais, le deuxième procès a été vraiment dur pour Christian, qui n'était pas au top de la forme psychologique, mettons.
Mm-hmm.
Puis à ce moment-là, il était à Pinel, dans un hôpital psychiatrique, puis il était quand même bien. Alors finalement, il décide qu'il ne veut pas de troisième procès. Alors
il accepte la sentence.
Plaider coupable. En fait, en 92, il plaide coupable de meurtre au second degré. Donc il reçoit...
Second degré?
Ouais. Ben, tu sais, vu que tu plaides jamais coupable au meurtre premier. Comme quand tu plaides coupable, c'est tout le temps un deal moins.
Dans le sens, je comprends ça.
Donc, condamné à prison avec libération conditionnelle au bout de 10 ans.
OK.
Mais finalement, il a été incarcéré pendant 36 ans. De 82 jusqu'à sa mort en 2020.
Il voulait pas sortir?
Il voulait pas sortir. En fait,
mais le gars, il s'était quand même présenté deux fois à l'Institut psychiatrique par
quand
lui-même.
Mais c'est ça. Mais en même temps, là, j'ai comme trouvé prison, mais je pense qu'il a passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique. Fait que, je suis pas sûre qu'il était en prison. Là. Je pense qu'il était plus en hôpital psychiatrique là où il devait être. Mais là, tu sais, 3 ans après le meurtre, alors que Christian est en prison, il y a d'autres incendies vraiment semblables qui ont été déclenchés dans les mêmes secteurs, donc quartier Montcalm et Saint-Jean-Baptiste.
C'est-tu des funnies qui se trouvent drôles puis qu'ils copient? Ça arrive souvent, ça.
Puis la police n'a jamais pu le lier aux autres incendies. Comme ils ont pu le lier à France, mais ils n'ont jamais pu le lier aux autres incendies. Puis c'est ça, il est mort en prison au moment où il commençait à écrire la télésérie, justement, qui est sortie.
Ah ouais?
Il est mort vraiment, c'est ça, récemment, en 2020.
Ouais, 2020.
Et toutes les preuves qui auraient pu contenir de l'ADN ont été détruites. Et donc, n'ont jamais été testées, comme pour les incendies, le meurtre de France.
Pourquoi?
Ben parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de tests d'ADN. Fait qu'ils ont
mais
pas
pourquoi ils les détruisent?
Manque de place.
OK.
Fait que, tu sais, à certains moments, il a clamé son innocence. En même temps, à d'autres moments, il a avoué. Fait que c'est pas... On n'est pas sûr que c'est lui qui a tué France. On n'est pas sûr que c'est lui qui a... Que, dans le fond, l'assassin, le pyromane, était la même personne ou pas. Mm. Ça se pourrait qu'il y avait un pyromane et que... Mettons, Christian était l'assassin de France, mais qui n'avait pas rapport aux autres incendies. Ça pourrait qu'il y avait
un voyeur aussi. Ça se pourrait que la lettre soit vraie.
Ouais. Comme, on ne sait pas combien il y avait de criminels, en fait, en circulation.
C'est capoté.
À ce moment-là. Moi, je pense que Christian, c'est lui qui a tué France pour vrai. Je pense qu'il était ouais. tellement... Il avait l'air vraiment obsédé par elle. Puis comme ça a vraiment du sens que ce soit lui.
Mm-hmm.
Mais c'est ça.
Mais c'est clair qu'il y a des petits faits,
ben,
des petits
clair
drôles.
Qu'il y a
qui
au
ça...
moins un autre pyromane qui,
oui,
que
ça,
pendant
c'est
qu'il
sûr.
Est en prison, il a peut-être fait un copycat de lui-même.
Mm-hmm. Ça a l'air non, ça, les... ceux qui copient des meurtriers, là,
ouais,
qui font passer un meurtre pour en mettre sur le dos d'un autre.
Oui, en anglais, c'est copycat, mais...
Non, mais...
En français...
En tout cas, je sais pas c'est quoi.
Ouais. Fait que ça reste très nébuleux, tout ça.
Très nébuleux, c'est le mot.
Ouais. Des fun facts. Donc, en plus d'avoir inspiré Robert Lepage à écrire le polygraphe, ça l'a aussi inspiré Christine Brouillette, qui est une grande écrivaine québécoise. Son premier roman policier a été écrit peu de temps après les événements, qui s'appelle « Chère voisine ». Puis, ça raconte une histoire vraiment différente, mais dans le roman, on y retrouve vraiment l'ambiance trouble qui régnait dans la ville de Québec à l'époque. Fait qu'en y repensant aujourd'hui, en fait, elle dit « J'aurais jamais... » penser à écrire ça s'il n'y avait pas eu tous les événements qui s'étaient passés à Québec. Il y a aussi le cinéaste Yves Simoneau qui a fait un long métrage vraiment rapidement en 1982. Peut-être un peu la même année. Ben comme 2 ans après le meurtre. Hein. Il s'appelle Les yeux rouges qui met en vedette Marie Tifo, Jean-Marie Lemieux et Pierre Curzi.
Ah, quand même.
Alors, voilà. Ça a quand même marqué l'imaginaire collectif.
C'est clair. En plus, dès que c'est dans le domaine des acteurs et des comédiens
ouais.
québécois, c'est mm-hmm. sûr qu'après ça, il y a comme beaucoup d'œuvres et il y a beaucoup de trucs qui sortent par rapport à ça.
Oui.
Wow. Pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est juste un fait.
Voilà. Fait que c'était l'histoire du pyromane voyeur. Voyeur pyromane.
Tabarnouche, OK.
Le meurtre de France La Chapelle.
C'est... J'en reviens pas, Jocelyne, qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Ouais, c'est fou, hein?
J'en reviens pas. C'est capoté.
Ouais, vraiment.
Le monde est très petit.
Oui. Ouais, c'est ça.
C'est sûr qu'on raconte l'histoire, puis il y a plein de gens qui vont nous écrire. Que...
Ben oui,
ouais.
C'est sûr qu'il va y avoir d'autres lignes, là.
On veut des potins, si vous en avez.
Ouais, oui.
My God. OK.
Ouais.
Comme d'habitude, on finit les épisodes, puis
on est
épuisé. Mentalement.
Oui.
Aïe, OK. Bon. Mais passez une belle semaine. Bye.
Bye.
Oh, merci encore de nous avoir écoutés. On se revoit dans 2 semaines,
ouais.
I guess. Ça devrait être ça. C'est pas mal tout le temps
pas
ça qu'on fait.
Ouais.
Pas mal tout le temps ça. À part pour les Patreons.
Ouais.
Merci encore de nous avoir écoutés. On vous adore. Continuez à nous écrire. On adore vous lire.
Oui.
Et c'est ça.
C'est ça.
Bye.
Bye.
Quand on finit un épisode en disant c'est ça, c'est donc mes dolls.